Shalom à tous, Boker Tov, Shavua Tov les Koulam. Et voilà, Boker Tov, on est Yom Rishon, on est le dimanche matin, et c'est vrai que je ne faisais plus de cours en français le dimanche matin. Et là, j'ai prévu de recommencer pour une petite période, je ne sais pas si on va rester comme ça éternellement, mais au moins pour 3 ou 4 semaines, parce que je me suis dit, voilà les amis, on est à 2 semaines de Hanouka. Et alors évidemment, je me suis dit, je vais leur faire un petit cours sur Hanouka, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt, on est 2 semaines avant, machin. Donc, je vais pas vous faire un cours là maintenant sur Hanouka. Par contre, eh bien, je me suis dit que Hanouka s'inscrivait dans une période beaucoup plus grande et beaucoup plus riche. Il y a parmi les différentes périodes du peuple juif, certaines qui me passionnent énormément. Alors, vous le savez, j'adore l'histoire, et parce que si on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son présent, on ne connaît pas son identité, on ne peut pas prévoir et utiliser véritablement notre avenir. Et donc, parmi ces périodes de l'histoire d'Israël qui me passionnent, eh bien, c'est la période du Beit Sheni. Le deuxième temple, pour moi, est une période extraordinaire. Et donc, je me suis dit, on va faire une petite histoire des petits cours en plusieurs fois, je dis 3 ou 4 cours, pour essayer de cerner cette époque incroyable du Beit Sheni. Alors, ce ne sera pas véritablement un cours de Torah. Voilà, je tiens à le dire. Peut-être qu'il y aura des petits enseignements par-ci, par-là de Torah, mais ça ne sera pas un cours de Torah. Ça sera plus un cours d'histoire. Voilà, un cours d'histoire clairement établi. En plusieurs époques, on va essayer de passer sur l'histoire du Beit Sheni. L'idée, c'est que entre aujourd'hui et dimanche prochain, eh bien, on soit arrivé jusqu'à la période de Hanouka. Puis pour que le dimanche matin de Hanouka, eh bien, je puisse vous faire un cours sur l'histoire de Hanouka et pas un cours de Torah sur Hanouka, ça y en aura également, mais un cours d'histoire sur ce qui s'est passé à Hanouka. Évidemment, la chose que personne ne connaît parce que tout le monde s'occupe de la petite huile d'huile et personne s'occupe des faits historiques. Donc, voilà le projet de ce que je voulais faire avec vous les dimanches matins. Alors, allons-y les amis. Une histoire du Beit Sheni, chapitre 1. Alors, chapitre 1, j'ai appelé ça la période perse. Ben oui, parce que quand on parle Beit Sheni, essayons 2 secondes de situer en termes de datation. C'est quand le Beit Sheni ? Eh bien, c'est pas compliqué. Beit Sheni commence avec ce qu'on appelle la Hatzarat Koresh, la déclaration Cyrus, en moins 538, et va se poursuivre jusqu'en plus 70. Alors, si vous regardez un tout petit peu les mathématiques, eh bien, moins 538 plus 70, ça va nous faire une période longue. Eh oui, une période longue de combien ? Alors, les matheux ? Ben, de près de 608 ans. Eh oui, et ça, c'est une longue période comparée à ce que nous disent nos sages dans le Seder Olam Rabba, d'après l'enseignement des Chachamim. La période du deuxième temple n'était pas de 600 ans, mais a été de 420 ans. Beit Rishon, 410 ans. Beit Sheni, 420 ans. Donc, il y a ici une machloquette entre Chachamim et l'enseignement de l'archéologie. La question qu'on peut se poser en premier lieu, c'est de savoir qui a raison. Eh oui! Eh oui, qui a raison ? Est-ce que nos Chachamim ont raison ou est-ce que les sages de l'histoire ont raison ? Eh bien, ça, c'est une bonne question. Et la vérité, c'est que ce n'est pas évident du tout. C'est-à-dire, dans tous les cas, ce que disent nos Chachamim quand ils nous disent que c'est 420 ans l'époque du Beit Sheni, eh bien, de toute façon, ça passe quand on parle uniquement de la création du Beit HaMikdash Hasheni, si on la prend sur le point de vue de, on va dire, le moment où Ezra et Néhémia ont bel et bien mis en place tout ce qui se passe, c'est-à-dire que tu grattes des années par-ci par-là et tu arrives à 420 ans de fonctionnement effectif du Beit HaMikdash. Donc peut-être que c'est cela qu'il voulait dire. Pas évident, pas évident. Quelle est la base de la Mahloket ? Quelle est la base de la Mahloket ? On a quand même près de 150 ans de différence entre ce que disent les archéologues et ce que disent les Chachamim, eh bien, la base de la Mahloket est sur la dynastie, les chronologies des rois perses. Et là, c'est un problème parce que pratiquement tous les rois perses ont les mêmes noms, avec des numéros ou pas de numéros. Et donc, des fois, c'est compliqué de savoir est-ce que c'est pas le même dont on parle, tout simplement. Alors que il apparaît plusieurs fois sous différentes appellations. Est-ce que ce serait pas le même roi, en fait? Et que donc, cette période-là serait beaucoup plus courte que prévu. Donc, c'est là que vient la base de la marloquette. Une façon de régler la marloquette, eh bien, c'est des choses qui sont aujourd'hui vérifiables. Vérifiables de manière scientifique. À savoir, eh bien, le meilleur moyen pour nous de vérifier une période, c'est grâce aujourd'hui aux éclipses. C'est-à-dire qu'en général, dans les différentes cultures, eh bien, dès qu'il y a une éclipse solaire totale, eh bien, les gens vont en parler. Donc, on va les retrouver dans les écrits de l'époque. Or, aujourd'hui, avec nos moyens technologiques, eh bien, on peut tout à fait retrouver exactement quand ont eu lieu les différentes éclipses totales. Et quand on regarde ce calcul scientifique, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a eu des éclipses totales et qui sont marquées justement au début de la période perse, au début de la période donc du Bayt Sheni, et ça correspond eh bien, à la période dite des scientifiques, des historiens, de 600 ans. D'un autre côté, le problème, c'est que il y a également une très belle éclipse totale qui marque très bien les 420 ans, parce qu'on est plus ou moins d'accord sur la fin de la période du Deuxième Temple, la destruction du Bayt Sheni, ça, il n'y a pas de débat. Donc, pour commencer la période, et on a aussi là-bas une très belle éclipse totale. Et donc, la marloquette vient du fait que lorsqu'on demande aux ordinateurs une éclipse totale, c'est lorsqu'il y a une éclipse totale. À l'époque, les gens n'avaient pas les ordinateurs pour savoir si effectivement le disque solaire était complètement masqué. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que des fois, il y a des gens qui ont interprété une éclipse qui était presque totale, on va dire 90%, comme étant une éclipse totale, alors que les ordinateurs ne la comptabilisent pas comme étant une éclipse totale. C'est ce qui peut expliquer les marloquettes entre les deux. Bekitsour, c'est pas très très important les dates. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les événements. OK? Donc, nous avons une période perse qui va durer, on va dire, près de quelques années, hein, puisque de moins 538, si on utilise la datation historique, jusqu'à moins 333, avec l'arrivée de Alexandre le Grand. Ensuite, nous aurons une période qui s'appellera la période grecque entre moins 333 et moins 63, OK? Où on va arriver l'Empire romain. Et ensuite, nous aurons la période romaine, en fait, de moins 63 jusqu'à plus 70. Alors, allons-y. Essayons aujourd'hui de comprendre la période perse. Vous verrez que tout est imbriqué. Et c'est pour ça que, avant de m'intéresser sur la période perse, entre guillemets, en particulier, en focus, eh bien, il va falloir d'abord qu'on parle de quels sont les méafienimes, quelles sont les spécificités de cette période. La période du Bayt Sheni est une période de chamboulement dans le peuple juif, une période où tout doit être repensé. C'est la première fois qu'on était parti en exil et qu'on doit en revenir. Vous allez me dire, non, on était en Égypte, certes, mais depuis la période biblique, depuis la période, on va dire, pentateuque, eh bien, c'était la première fois que le peuple juif devait se réinventer en tant que peuple qui doit retourner sur sa terre. Eh bien, c'est quelque chose qu'il n'avait plus fait depuis 500 ans. Il ne sait pas comment le faire. C'est une période de chamboulement. Alors, il y a plusieurs, évidemment, spécificités à cette période. D'abord, c'est plus ou moins la fin de la maison de David. Eh oui. Alors non, c'est pas vraiment la fin, mais la maison de David n'est plus celle qui régit le peuple juif. Eh oui. Lorsque on va commencer avec, en moins 597, l'exil 11 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash, nous avons le départ en exil de l'élite de Jérusalem. L'élite de Jérusalem avec le roi de Jérusalem, Yechonia Melech Yehuda. À ce moment-là est mis en place Yehoyachin, qui est son cousin et qui va être le roi, qui va s'appeler également Tzidkiyahou et qui va être le dernier roi de Judée avant la destruction du temple, du premier temple en moins 586. Mais si vous voulez, le départ de l'élite de Jérusalem marque finalement quelque part le début de la fin de, j'allais dire, la maison de David. Et ça, c'est quelque chose qui va être très fort. Parce qu'à partir du moment où David, concrètement, n'est, enfin David, sa maison, n'est plus concrètement le patron en terre d'Israël, eh bien, à ce moment-là, comment le peuple juif peut-il prétendre à une, bah, une identité souveraine? Vous le savez, pour être souverain, d'abord, c'est vrai aussi au niveau de la halakha, nous dit le Rambam dans Ilchot Gzela et Aveda, chapitre 5, quels sont les deux tenants et aboutissants pour être malchut, pour être une royauté souveraine, un peuple souverain? Il faut avoir une monnaie et une armée. Eh bien, oui, mais sauf que ça, il n'y a plus. Donc, à ce moment-là, eh bien, puisqu'on est à la fin de la période où Beth David peut commencer à bah, naître, eh bien, cette période du Beit Sheni va voir la naissance, je m'explique bien, pas la naissance au niveau de, c'est pas par là que c'est pas là que ça a commencé, mais c'est là qu'on va commencer à en parler énormément de la notion de Mashiach ben David. Et oui, alors, je répète, ce n'est pas né à ce moment-là, puisque la notion de Mashiach, les Midrashim en parlent énormément, que ça a commencé déjà avec David, avec même avant David. Donc, la notion de Mashiach, de Meshichiyut, de messianisme, est quelque chose qui est premier dans le peuple juif, bien évidemment, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à en parler officiellement, puisque ça devient pour nous, un, on va dire, une source d'espoir de se réfugier dans bah, l'identité du Mashiach ben David qui va arriver. Donc la première chose qui détermine cette période, ça va être, eh bien, quelque part la fin de la, on va dire, domination de la maison de David sur le peuple juif. D'ailleurs, pendant toute la période perse, eh bien, ça sera très rare de voir un dirigeant de Beth David qui prend les rênes de la communauté. Évidemment, on connaît Hanouka, ce sera les Kohanim, tout ça, mais c'est pas que les Kohanim, ce sera très rarement un chef qui vient de David. Ça existera, mais ça sera très rare. Il y a une autre particularité de cette période, c'est une particularité énorme, puisque c'est la fin de la névoie, c'est la fin de la prophétie. Et ça, c'est une caractéristique évidente. Le monde change. Le monde qui avait le dévoilement du divin, la présence du divin de manière palpable, pas que chez les Juifs, hein, dans le monde entier, eh bien, aujourd'hui, Dieu ne se représente, ne se dévoile plus, il n'est plus palpable, entre guillemets, dans le monde. Ben, vous imaginez bien que ça va avoir des répercussions énormes également sur le peuple juif. Alors, énormes dans le monde entier. Il faut savoir que dans le monde entier, on est plus ou moins en moins 500. Dans le monde entier, il y a un chamboulement à ce niveau-là des consciences. En Grèce va naître la philosophie, en Perse, l'Iran donc d'aujourd'hui, en Perse, Zarathoustra va naître, créant une philosophie basée, enfin une mythologie basée sur le bien et le mal et non plus sur le panthéon des dieux. Vous avez en Inde Bouddha qui apparaît, qui crée le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme en Chine. Bekitsour, l'absence de dévoilement direct du divin sur terre va créer un chamboulement des consciences. Donc évidemment pour nous, il s'agit de la fin des derniers prophètes, à savoir par leur nom, Haggai, Zecharia et Malachi. Et donc, bah, ça crée évidemment une dimension complètement différente. D'autant plus qu'il n'y a plus donc de Shilton Merkazi, il n'y a plus de, on va dire, de gouvernement central qui détermine la vie juive, il n'y a plus de Beth Amikdash pour centraliser Avodat Hashem. Et donc, eh bien, on va commencer à avoir dans la période du Beit Sheni le pluralisme religieux. Qu'est-ce que cela veut dire, le pluralisme religieux? Eh bien, on commence à voir apparaître les machlokot. On commence à voir apparaître les machlokot parce que, eh bien, on ne peut plus avoir un peuple juif réuni qui va déterminer ensemble avec le Sanhédrin de qu'est-ce que c'est la halakha. Et donc, ben, il y a des écoles de pensée qui vont commencer à naître. Alors, au début, de manière évidemment très, très light, puisque on parle de la première machloket qui n'aurait pas été tranchée. C'est une machloquette entre Yossi ben Yoézer et Yosef ben Yohanan sur la smicha beyom tov, à savoir est-ce qu'on a le droit de mettre ses mains sur l'animal avant de faire un korban beyom tov. Ça n'a pas été tranché, mais Yossi ben Yoézer et Yosef ben Yohanan, c'est déjà le milieu de la période du Beit Sheni, c'est la période de Hanouka. Donc, si vous voulez, ça va prendre du temps. C'est pas directement, il n'y a plus de Beit Hamikdash, pouf, chacun fait ce qu'il veut. Mais effectivement, cette période du Beit Sheni va voir le départ, le point de départ de ce qu'on appelle la machloket dans le peuple juif. Et donc, moi je suis un tel, moi je suis un tel, et donc on va avoir une espèce de pluralisme religieux, pas d'une anarchie, parce que tout le monde se réfère à la Torah, mais des avis qui vont diverger. Ça va permettre, malheureusement, à la fin de l'époque du Deuxième Temple, d'arriver à des idées complètement extérieures au peuple juif, comme par exemple les sectes de la mer morte, comme les tzedoukim, et ainsi de suite. Mais ça, on en parlera lorsqu'on arrivera dans notre dernier chapitre. Très rapidement, alors que les Babyloniens nous ont exilés, les Babyloniens vont tenir maître du monde pendant 52 ans et vont être renversés par les Perses. Très rapidement, à ce moment-là, les Perses vont donner aux Juifs une autonomie en Eretz Israël. Alors, je vous rassure, pas sur tout Eretz Israël, mais une autonomie quand même. Et le fait qu'on puisse avoir une autonomie en Eretz Israël va nous permettre tout simplement de recommencer à mettre en place une vie juive fixe, autonome. Seulement, évidemment, cette vie juive n'est pas régie par le Meller, il n'est pas régi par véritablement le Kohen Gadol, puisque c'est pas, il n'y a plus de Beit Hamikdash à ce moment-là, donc pas vraiment. Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, qui va être un des grands recours pour comprendre cette période-là, nous parle, nous explique la vie, enfin, on va dire le code de loi qui régit la vie juive à ce moment-là, il l'appelle Patrias Nomus. Mazé Patrias Nomus. Patrias Nomus, ça veut dire Chok Ha'avot, la loi des pères. En d'autres termes, ce qui régit de manière générale la communauté juive à ce moment-là, c'est Aminagim. Aminagim est évidemment l'enseignement des Rabbanim. On a dit, chaque personne se réfère à ses Rabbanim. La Torah n'a évidemment pas arrêté depuis la destruction du Temple, mais il n'y a plus de centralité de l'enseignement. Alors, il n'y a plus de centralité de l'enseignement. Certes, et pourtant, une des grosses particularités de cette période, c'est que vont commencer à se mettre en place différents centres juifs. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous on connaît depuis, on va dire, le 15e siècle, où on a vraiment des juifs partout, des communautés partout, mais c'est pour la première fois qu'on va avoir des centres juifs différents. Il y a quand même des juifs en Israël. Il y aura un merkaz à Jérusalem parce que, certes, les Babyloniens nous emmènent en exil, mais on a assez rapidement le droit d'y revenir. Alors, ça sera fait de manière très light. On va y revenir dans quelques minutes. Mais il va y avoir quand même une centralité à Jérusalem. Ça sera l'une des communautés centrales du peuple juif. Évidemment, les deux grosses communautés juives sont à Babylone et en Perse. Bien évidemment, donc Babylone, on connaît, et en Perse, eh bien, il s'agit de Suse, ou alors Shushan, ça nous fait évidemment penser à l'histoire de Pourim, bien évidemment, qui se passe, eh bien, à ce moment-là. Nous avons également une grosse communauté qui se met en place en Égypte, et petit à petit, il y a également des communautés qui vont se mettre en place plus à l'ouest. Plus à l'ouest, et on va commencer à en voir en Grèce et en Italie. Mais ça sera beaucoup plus tard. C'est-à-dire que les communautés de Grèce et d'Italie vont arriver dans la deuxième moitié de la période du Second Temple. Ces différents centres juifs, eh bien, forment ce qu'on appelle en hébreu « atfutsot ». Atfutsot, c'est-à-dire ceux qui ont été éclatés, ceux qui ne sont plus à la centralité, qui restera Jérusalem, quoi qu'il arrive. Et donc, comment ce terme de tfutsot éclaté est traduit en grec lorsque les Grecs voient s'installer chez eux des Juifs? Eh bien, ils se revendiquent ces Juifs venant de Jérusalem. Ils sont donc des gens éclatés de leur origine. Les Grecs vont appeler, traduire ce mot tfutsot en diaspora. Donc, diaspora est la traduction grecque du mot tfutsot. C'est un mot qu'on connaît très bien, qu'on utilise à tirer l'arigot. La diaspora, c'est tout simplement la définition des juifs, des communautés juives qui ne sont plus en Israël. Alors, très bien, mais s'il y a bien un élément qui est central pour comprendre cette période, eh bien, c'est la première fois que le peuple juif, enfin, première fois, depuis l'Égypte, hein, l'Égypte est de toute façon prototypique, comme tous les éléments qui sont marqués dans la Torah, mais là, ce sera la première fois que le peuple juif est obligé d'être soumis à une influence extérieure. C'est-à-dire que pour la première fois, il y avait à l'époque du premier temple les idolâtres qui étaient tout autour de nous, mais ils étaient autour de nous. Et donc, on a été en guerre contre eux. Des fois, ils réussissaient à imposer leur ambiance, mais on savait de toute façon qu'on était eux et nous. L'époque du deuxième temple, ça va être la première fois où les Juifs, parce qu'ils sont en exil, eh bien, même quand ils sont en Perse, eh bien, ils vont être soumis à l'influence culturelle perse, mais cette influence sera quand même assez limitée, puisque les Juifs garderont une spécificité. On peut voir les premiers mots de la Megillat Esther qui nous montrent que ben, les Juifs étaient considérés comme Am Meyuchad Ben Amim. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment intégré, mais il va surtout y avoir dans la deuxième partie du deuxième temple l'influence de l'hellénisme, l'influence grecque grandissante, y compris en Eretz Israël. Et ça va être la première fois qu'on va devoir faire face à l'influence extérieure. Alors voilà, là je pense qu'on a fait le tour des différentes caractéristiques, des différents critères qui forment une période. Il est temps de revenir maintenant sur la première période de cette épopée du deuxième temple, la période perse. Alors, la période perse, on a dit, elle va commencer depuis la Hatzarat Koresh, depuis la déclaration Cyrus, qui, d'après les historiens, a eu lieu en -538. Je dis « a eu lieu » et non pas « aurait eu lieu », parce que la déclaration de Koresh, Aleph, apparaît évidemment qu'elle apparaît dans la Torah, enfin dans la Torah, dans le Tanakh, bien évidemment, puisque la Hatzarat Koresh, on va la trouver, où est-ce qu'on va la trouver? Eh bien, on va la trouver dans le livre de Ezra, dans le livre de Néhémia, et donc c'est quelque chose qui est, de chez nous, une évidence. Mais le ridouche extraordinaire, eh bien, c'est que la Hatzarat Koresh, nous l'avons retrouvée. Et oui, on peut la voir au musée d'Israël, c'est la fausse, mais on peut voir la vraie, si je ne m'abuse, elle est aujourd'hui dans le British Museum, mais je ne suis pas sûr de mon coup. De toute façon, on l'a retrouvée, ou en Turquie, un des deux. Mais on l'a retrouvée, c'est une pierre octogonale, comme ça, de cette taille-là à peu près, où est tout simplement inscrit, non pas une pierre, autant pour moi je me suis trompé avec la déclaration de Sanhérive, non, la déclaration de Koresh c'est un cylindre sur lequel a été gravée la déclaration Koresh. Alors, petit bémol, alors que quand tu lis le Tanakh, eh bien tu vois que Cyrus a demandé aux Juifs de rentrer à Jérusalem et d'y reconstruire le Beth Amikdash, il a fait Mehot, c'est vrai. Ce qu'il faut être honnête et dire, c'est que dans la déclaration Cyrus officielle qu'on a retrouvée en archéologie, ça a été donné aux Juifs cette permission-là, mais pas que aux Juifs. C'est-à-dire que les Perses vont donner la permission à tous les peuples qui ont été exilés par les Babyloniens de rentrer chez eux et de reconstruire leur temple. Nous également, évidemment. Alors, si vous voulez apprendre un petit peu la période perse, c'est pas très compliqué. Où est-ce qu'on va regarder? Eh ben, dans le Tanakh, tu veux lire le livre de Haggai, le livre de Sraria et de Malachi, le Megillat Esther, le livre de Daniel, Ezra, Nehemia, Divrei Hayamim. Ce sont les 8 livres du Tanakh où tu peux trouver l'ambiance perse. Ok? Maintenant, nous avons également des sources archéologiques, comme on l'a dit. Par exemple, la déclaration Koresh. On a retrouvé également des constructions qui datent de cette époque-là. Et nous avons retrouvé également un petit texte sympathique. Oh, ça, c'est pas là-dessus que tu bases toute une compréhension de période, mais sympathique quand même, qui s'appelle « Les lettres d'Éléphantinos ». Alors, les lettres d'Éléphantinos, en fait, c'est à Yeb, en Égypte. Eh bien, là-bas avait été envoyée une unité de soldats juifs. Alors, on a tendance à penser, et ça c'est intéressant, parce qu'on a tendance à penser que les premiers soldats juifs depuis la Galoute, eh bien, c'était les Gdoudim à Ivry de Jabotinsky. Alors, il faut savoir que non, il y a eu des Gdoudim Ivrim avant. Les Perses avaient engagé des unités juives, une fois qu'ils dominaient le peuple juif, et certaines de ces unités juives étaient envoyées à différents endroits pour garder les frontières. Ils étaient le Mishmar Agvoul de l'époque. Et l'une de ces unités est donc à Éléphantinos. Et là-bas, eh bien, ils vont écrire des lettres sur des papyrus écrits en araméen qu'ils vont envoyer au Kohen Gadol chez Birushalayim. Ces lettres datent entre moins 420 et moins 399. C'est une période où le Beth Amikdash Hasheni est déjà reconstruit. Donc, Kohen Gadol, tout va bien. Et ce sont des lettres dans lesquelles, eh bien, on va finalement trouver des demandes et ce sont des questions en fait qu'on demande au Kohen Gadol à Jérusalem, comment se préparer pour Chag HaPesach alors qu'on va être Bashetar. Donc les premières lettres de Ilchot Tzava, on les a retrouvées à Elephantinos. Ces lettres sont envoyées et au Kohen Gadol chez Birushalayim et également à Hanania, le frère de Nehemia. Donc ça resitue très bien la période. Il y a un autre élément qui nous permet de bien comprendre cette période. Il n'est pas juif. Cet élément, il s'appelle, c'est un monsieur, il s'appelle Hérodote. Hérodote, l'historien grec, le premier historien grec en fait de l'histoire, habite à ce moment-là. Hérodote, c'est plus ou moins, il vit entre moins 484 et moins 420, Machoukazé. Et donc, il va être le premier qui va décrire cette période. Alors, il ne se concentre pas évidemment sur les Juifs, mais il va en parler beaucoup. Par exemple, eh bien, comme vous le savez, c'est le premier qui va appeler notre région Palestina. Palestina. Rien à voir avec les Palestiniens, évidemment. Rien à voir non plus avec les Philistins. Il n'y a plus de Philistins à cette époque-là. Il y a leurs descendants, certes, mais il y a surtout des Juifs qui habitent sur le littoral. Il y a des non-Juifs, mais il y a également des Juifs qui habitent sur le littoral. Et Hérodote les appelle des Plishtim. Des Plishtim, pas dans le sens philistin, mais dans le sens les gens du rivage, les Plishtim, ceux qui sont arrivés sur la côte. Le son « che » n'existant pas en grec, eh bien, de Plishtim, c'est devenu Palestine, Palestina. Mais le problème, c'est qu'il ne parle pas des Philistins, il parle des Juifs qui habitent là à ce moment-là. Il ne les appelle pas d'ailleurs Juifs, mais il les appelle un peuple très bizarre qui est circoncis, « oivavoy », parce que pour les Grecs, c'est terrible d'être circoncis, « verhutsmise », c'est un peuple également qui fait le Shabbat. Ils sont vraiment flemmards et vraiment, ça ne va pas du tout. Maintenant, grâce à Hérodote, eh bien, on va connaître énormément de choses sur cette période. Alors, les rois, j'ai dit, le problème de comprendre la période perse, c'est de bien en saisir les différents rois. Et le problème, c'est qu'à part Koresh et Dariavesh, les noms, c'est tout, très souvent Achashverosh, 1, 2, 3, et Dariavesh, la vérité, c'est qu'il y en a déjà 4. Donc, c'est un petit peu compliqué. On a un roi qui va durer pendant 9 ans qui s'appelle Cambyses. Bon, il n'est pas très important. Les centraux, ça va être Koresh, Darius II et Achashverosh, Assuérus, Xerxès. Et on va avoir Artaxasta en hébreu ou en perse, et Antaxerxès en grec, qui va avoir évidemment une influence énorme pour nous à ce moment-là, puisque ça va être la période justement de la fin de l'Empire grec, de l'Empire perse et le début de la période grecque. Alors voilà, les amis, il y aurait énormément de choses à redire. Je vois qu'on a pris énormément de temps pour mettre en place les bases. Ça prendra un tout petit peu peut-être plus de temps que prévu. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Nous terminerons la période grecque, la période perse la semaine prochaine et on rentrera dans la période grecque qui nous amènera à Hanouka, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. C'était le premier épisode de la période du Second Temple. À bientôt, les amis.